Bonjour à toutes et à tous. Je crois que vous êtes déjà nombreux, 38. Donc moi je suis Jean-Marc Galland, chercheur au Centre Internet et Société. Je vais animer cette session de séminaire. Alors, on a le plaisir d'avoir avec nous Fabien Tarissant aujourd'hui. Donc Fabien, tu es chercheur au CNRS en informatique. Tu es aussi enseignant à l'ENS de Paris-Saclay sur ta discipline. Et tu as également une activité, comment appeler ça, de médiation scientifique à la Société informatique française, qui est une société savante.
C'est ça.
Ah. Et donc, bah, du coup, ah oui, et puis une dernière chose qui est importante à dire, c'est que tu as écrit en 2019 un petit livre que vous avez peut-être déjà lu, qui s'appelle, hop, je le montre là, Au cœur des réseaux des sciences aux citoyens, petit livre que je vous conseille chaleureusement, il est vraiment super. Et donc, tu es là avec nous pour une session qui va durer au maxi jusqu'à 15h30. L'idée, si j'ai bien compris, c'est tu nous fais une petite intervention liminaire de tes travaux à peu près d'une trentaine de minutes. Peut-être on fera un petite pause d'interaction au milieu de cette session-là. Et ensuite, session de discussion. Discussion, comme on est assez nombreux, je vous encourage plutôt à poser vos questions ou vos réflexions dans le chat. Et moi, je vais les synthétiser, les faire remonter vers Fabien. Si j'y arrive pas, si je ne comprends pas la question, pas de souci, vous pourrez aussi prendre la parole directement, mais voilà, on va plutôt essayer comme ça. Mais écoute, Fabien, voilà, grand merci. Puis donc, je te laisse le micro pour que tu nous présentes tes travaux. Est-ce que tu as envie de te partager?
Très bien, ben, merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, tu as couvert un petit peu tous les aspects qui animent ben, mon travail, c'est-à-dire à la fois la recherche, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle je viens parler aujourd'hui au séminaire, mais aussi les aspects d'enseignement, de médiation. Et c'est un peu plus que la médiation en sens natif, c'est aussi l'animation d'une communauté qui essaye de sortir des sphères purement universitaires. Hein. C'est le but d'une société savante, c'est ça, c'est aussi de s'emparer de sujets. Donc il y a la médiation pour laquelle j'étais vice-président, en fait. En charge de la médiation au sein de sa société servante, mais on travaille aussi beaucoup à la question de comment enseigner l'informatique, les usages du numérique dans le secondaire. Et donc ça a été aussi un gros dossier de la société savante sur lequel j'ai aussi contribué. Mais bon, peut-être on en parlera dans les échanges. Là, le but aujourd'hui, c'était de parler un petit peu d'algorithmes de recommandation et de la question de savoir comment l'organisation, la structuration de l'espace informationnel en ligne impacte, influe le comportement des utilisateurs sur ces plateformes en ligne. Et alors, pour faire ça, donc c'est là où j'ai en fait pensé ça en deux temps. Je vais effectivement parler de mes travaux et des résultats qui ont eu lieu en fait dans le cadre d'une ANR essentiellement qui s'appelle Algodiv pour Algorithmes et Diversité. Et donc, le cœur de mon intervention va être de parler de ça, mais j'aimerais juste positionner ça au regard d'une question un peu plus large que la question de la diversité qui va m'intéresser, qui est de savoir ben voilà, comment les algorithmes, comment les plateformes en ligne impactent le choix des utilisateurs. Et pour faire ça, moi j'aime bien rappeler deux études, donc c'est là où je passe un petit peu de temps sur le contexte, deux études que j'aime bien accoler parce qu'elles tirent une conclusion. Donc les deux études sont, je trouve, très bien faites. Elles sont publiées dans des grands journaux. Ici, c'est PNAS et je crois que celle d'après, ça sera dans Science. Donc, c'est des journaux d'envergure. Elles sont très sérieuses. Et pourtant, elles arrivent à une conclusion qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Et donc, j'aime bien positionner du coup ce débat au regard de ces deux études. Donc, j'aimerais juste, peut-être que vous les connaissez déjà d'ailleurs, mais sinon, je vais vous rappeler brièvement comment elles sont fonctionner et quelles sont leurs conclusions. Donc la première s'appelle Search Engine Manipulation Effect. Donc c'est l'effet de donc l'étude vise à montrer l'effet de manipulation possible, rendu possible par les moteurs de recherche. Search Engine, ça veut dire moteur de recherche. Et donc c'est une étude comportementale. Hein, donc on fait intervenir, si je me souviens bien, 5 000 participants et on va leur demander de faire un choix entre des candidats dans des contextes d'élections qui sont de vraies élections. Donc parti pris de cette étude, c'est de prendre des situations réelles en lien avec de grands enjeux de la vie démocratique de nos sociétés et de savoir comment les gens votent. Donc, on fait intervenir des participants, on leur présente Donc, on sélectionne ceux qui n'ont pas de conviction politique forte, ce qu'ils appellent dans l'étude des indécis. Alors, c'est très critiquable parce que ce qu'ils appellent indécis est quand même une version très, très faible, ou au contraire plutôt très, très forte de ce qu'on appelle l'indécision dans ces contextes-là. On pourra y revenir si vous le voulez. Mais voilà, on récupère des gens qui n'ont pas une conviction forte. On leur présente des candidats. Alors, on va simplifier ici, on va dire qu'il y a deux candidats. Et on leur demande, donc on présente un petit peu ces candidats. Typiquement, on explique dans à quel parti politique ils appartiennent et quels sont un petit peu leur parcours professionnel. Et puis, on leur demande tout de suite, est-ce que là, comme ça, à partir de ces quelques éléments biographiques, vous avez une préférence? Essayez de pour qui vous voteriez si vous étiez forcé de voter maintenant? Alors, les gens font un choix, A ou B. Et puis, on leur dit, bon, ben maintenant, vous allez prendre du temps. Alors, du temps, mais ce n'est pas beaucoup, puisque dans l'expérience, je crois qu'ils ont 45 minutes, si je me souviens bien, une heure peut-être, pour effectuer une recherche. Et vous avez ici un ordinateur avec un moteur de recherche qu'on vous impose. Hein, et vous allez pouvoir taper des mots-clés et lire des choses relatives à la campagne électorale en cours. Et en amont, donc Robertson et Epstein, qui ont mis en place cette étude, ont récupéré une cinquantaine ou une centaine de pages web réelles qui traitent de l'élection et des candidats. Et ils ont catalogué ces pages web en fonction de est-ce qu'elles sont en faveur du candidat A ou en sa défaveur, et est-ce qu'elles sont en faveur du candidat B ou sa défaveur. Et ce que ne savent pas les participants, c'est que le moteur de recherche qu'ils vont utiliser peut être de trois sortes. Soit c'est un moteur de recherche qu'ils qualifient de neutre dans l'étude, c'est-à-dire qu'ils intercalent des articles qui sont en faveur de A avec des articles qui sont en faveur de B, soit ils sont en face d'un moteur de recherche qui est complètement biaisé, par exemple en faveur de A, donc on met en premier les pages web qui sont favorables à A et en tout dernier celles qui sont favorables à B, ou l'inverse, c'est-à-dire biaisé aussi, mais pour l'autre candidat. Et donc en premier les pages web en faveur de B et en dernier les pages web en faveur de A. Et puis, on leur donne un petit peu de temps pour se renseigner. Ce qui est important ici, quand même, c'est que si jamais les participants explorent les 50 pages web, s'ils prennent le temps de lire les 50 pages web, ils seront exposés à exactement le même contenu, quel que soit le moteur de recherche et quel que soit l'environnement dans lequel ils sont. Et à la fin de cette phase de recherche, on demande aux gens s'ils changent leur vote. Maintenant qu'ils ont appris un peu plus de la position des candidats, est-ce que ça leur fait changer leur choix de vote? Et là, le résultat est assez clair, donc c'est ça qu'ils mesurent. Et là, le résultat est clair, c'est 20%, plus 20% des votants qui sont exposés à un moteur de recherche biaisé. Donc, ceux qui sont exposés à un moteur de recherche non biaisé, ça ne change quasiment pas à quelques pourcents près le vote initial. Lorsque vous êtes exposé à un moteur de recherche biaisé, et ben vous changez à 20%, enfin, les personnes changent d'avis dans leur élection. Et donc, c'est ça qui amène les auteurs à conclure que ce médium entre l'information disponible et le fait que l'on fasse une recherche pour s'informer, a un impact très fort et qu'il y a une possibilité, un effet de manipulation. D'ailleurs, ce qu'on apprend au passage, alors moi, je voyez à droite, là, il mesure aussi sur quelle page on clique en fonction du ranking dans le moteur de recherche. Donc là, on a en rouge un phénomène classique j'imagine qu'on fait tous l'expérience. On clique, quand on tape des mots-clés sur le moteur de recherche, on clique préférentiellement sur les premières pages. Rarement sur la 25e page. On demande rarement à un moteur de recherche de nous réafficher 10 nouvelles pages pour voir quelles sont les nouvelles pages pertinentes vis-à-vis de notre recherche. D'ailleurs, moi, en général, au bout du troisième ou quatrième lien, j'ai pas quelque chose qui me satisfait, je me dis, j'ai mal posé ma question, je rechange mes mots-clés, mais je passe pas du temps à aller loin dans le classement. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le petit graphique rouge. Ce que je savais moins, c'est ce qu'on voit dans le graphique bleu. Là, on mesure le temps moyen passé sur les pages web, lorsqu'elles sont cliquées en fonction de leur classement. Et là aussi, il y a une décroissance extrêmement forte. Donc ça traduit quoi? Ça traduit que la conviction que l'on a dans la pertinence de la page web, que l'on va quand même consulter parce qu'on va cliquer dessus, est moins forte lorsque l'on s'écarte du classement, du haut du classement, du haut de la liste. Et donc, tout ça participe au fait qu'en fait, on est même à travers ces moteurs de recherche, même avec le fait que les moteurs de recherche ne font que classer de l'information et qu'on a a priori tout loisir d'aller explorer l'ensemble des pages web qui sont pertinentes vis-à-vis de notre recherche, en réalité, on est exposé aux choix préférentiels de l'algorithme et des choix que l'algorithme a fait pour classer l'information. Alors ça, c'est un premier résultat. Et donc, si on caricature, il y a un point extrêmement fort des plateformes qui organisent, structurent, classent, recommandent de l'information aux utilisateurs. J'aime bien en miroir citer une autre étude qui est publiée donc dans Science, celle-là, et qui s'intéresse à la question des chambres d'écho et des bulles filtrantes. Donc, moi, j'aime bien différencier chambres écho et bulles filtrantes en reprenant une distinction classique entre le fait que les chambres d'écho sont plutôt un élément factuel, c'est quelque chose sur lequel on est assez convergent sur l'existence des chambres d'écho, donc qui renvoie au fait que lorsqu'on se retrouve sur des plateformes d'information, typiquement Facebook, c'est le cas de l'étude ici, eh bien, même si on pourrait avoir l'impression de pouvoir accéder sur toute l'information disponible sur Facebook, en réalité, on est enfermé dans des sphères d'opinion qui sont assez proches des nôtres. Et on est exposé à du contenu informationnel qui est proche de notre propre manière de traiter les sujets. Donc ça, c'est plutôt factuel. Il y a plein de façons de mesurer ça. Les plus convaincantes, je trouve, sont les études qui essayent de mesurer l'homophilie sur ces plateformes, et elles sont très, très fortes. Il y a une étude assez récente, je crois, de 2018, qui montrait que sur Twitter, il y avait une homophilie à plus de 85%. Donc, on tisse des liens sociaux virtuels sur ces plateformes avec des gens qui nous ressemblent énormément. Et donc, il n'est pas étonnant que, du coup, il y ait des chambres d'écho qui se créent. La question qui se pose, c'est comment émerge ce phénomène-là ? Et là, il y a plusieurs écoles, disons. Il y a ceux qui pensent, comme dans l'étude précédente finalement, que avant tout, la cause de cette situation vient des algorithmes. Et là, on pourrait citer Elie Pariser, hein, qui est la personne qui a conceptualisé ou, disons, popularisé la notion de bulle filtrante, de bulle algorithmique, et qui pense que ce sont les algorithmes parce qu'ils sont... Bulle de filtre, oui. Parce que ces algorithmes sont conçus pour identifier nos régularités, nos comportements, en viennent à nous enfermer dans un comportement préconçu qui est celui déterminé par l'algorithme. Mais on a d'autres courants qui tentent de montrer que avant, la cause principale n'est pas forcément l'existence de ces systèmes algorithmiques. Et là, c'est une étude qui tente de mettre ça. Donc là, c'est une étude d'envergure, hein, c'est 10 millions de comptes Facebook américains dans lesquels on est capable de cartographier l'appartenance politique, donc entre libéral, conservateur ou neutre quand c'est un peu plus gris. Et là, ce que vous voyez à gauche, c'est une mesure factuelle de comment sont échangées les informations entre les titulaires de ces comptes. Donc, ce que l'on voit, c'est typiquement ce phénomène de chambre d'écho. Les contenus à connotation libérale sont échangés entre des libéraux, et les contenus à connotation conservatifs sont échangés entre des personnes conservateurs. Donc ça, c'est le phénomène qui est mesuré ici. Et l'expérience que font ces auteurs, c'est de regarder le pourcentage de ce qu'ils appellent le cross-cutting content, que vous voyez peut-être ici en flouté, enfin en petit, donc, c'est-à-dire le contenu qui est contraire, disons, à la position idéologique du compte. Combien de contenus contraires à votre idéologie vous êtes exposé. Et ils font cette mesure à trois moments de la vie du réseau. Le premier, c'est celui où il n'y a aucun filtre. Vous regardez combien de contenus existent sur la plateforme et qui pourraient vous être exposés. Et vous avez cette mesure ici et vous voyez que quelle que soit votre affiliation politique ou idéologique, vous n'êtes pas loin de 50%. Ça nous dit que sur la plateforme, il y a autant de contenus libéraux, quasiment, que de contenus conservateurs. Alors, on n'est pas à 50 à cause justement de la faible proportion mais existante de contenu gris. On passe à un deuxième moment de la vie du réseau où on regarde simplement ce qui est posté ou ce qui est propagé par vos amis sur ces comptes-là, sur cette plateforme-là. Et c'est là qu'on observe une chute assez impressionnante, notamment pour cette courbe bleue, pour les libéraux, où on passe de quelque chose qui est de l'ordre de 42% de cross-counting à quelque chose qui est de l'ordre de 22%. Avec aussi une marche assez, assez notable pour les conservateurs. Et puis, on passe à une deuxième phase où là, on rajoute effectivement le newsfeed, donc ce filtre algorithmique qui va écarter un certain nombre d'informations. Et là, si vous regardez la pente, là, évidemment, le newsfeed a tendance à encore rétrécir la proportion de contenus différents, mais la marche, vous voyez que la pente de la courbe est beaucoup plus faible que celle de cette première étape. Donc, c'est ça qui fait dire aux auteurs qu'avant tout, la cause, elle est liée au comportement des utilisateurs, à la manière dont ils tissent des relations au sein de ce réseau, avant même la mise en place d'une quelconque procédure algorithmique. Et pour parachever leur démonstration, ils regardent un troisième moment de la vie du réseau. Ils regardent quand bien même on a ce pourcentage-là de contenu qui passe à la fois le filtre social et à la fois le filtre algorithmique, regardons ce sur quoi les gens cliquent. Et là encore, on a une décroissance assez nette, et notamment avec une inflexion plus forte que dans l'étape d'avant, ce qui montre que quand bien même on a du contenu qui arrive à passer ces deux filtres-là, eh bien les gens ont une tendance à les rejeter d'eux-mêmes, même lorsqu'ils sont exposés et lorsqu'ils pourraient aller faire preuve de curiosité sur ces sujets-là. Donc là, on a au contraire une étude qui nous montre que si effectivement les techniques algorithmiques ont un effet sur la non-diversification des points de vue sur ces plateformes-là, le rôle du comportement des utilisateurs n'est pas négligeable. Et c'est dans ce contexte-là que va intervenir, en fait, c'est les séries de travaux que je vais essayer de vous présenter rapidement, en se positionnant sur une question un petit peu différente de celle des études que je viens de montrer, qui est la question de la diversité de l'information à laquelle on accède, avec un angle d'approche qui est un angle méthodologique, qui est celui des graphes. Donc là, c'est clairement un biais, pour le coup, de ma propre approche de recherche, parce que moi, ma spécialité au sein de l'informatique, c'est les réseaux, les graphes. Et donc, moi, je suis obsédé par le fait que partout, il y ait des réseaux, partout, il y ait des graphes. Et ça induit une manière d'aborder cette question. Et c'est ça que j'aimerais vous présenter, mais peut-être que, Jean-Marc, on peut faire une première pause pour discuter avec les participants, soit des enjeux, soit des remarques sur ces études. Je ne sais pas si ça suscite des questions, des interrogations. Sinon, je peux continuer pour creuser cette question sur un contexte particulier.
Pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat, mais peut-être on peut laisser quelques instants à tout le monde pour réagir, poser des questions ou faire un commentaire. Et si ce n'est pas le cas, tu continues. Ah, voilà des questions qui arrivent. Quelle est proportionnellement la part des comportements par rapport aux algorithmes en chiffres? Une question de Claude.
Alors là, il faudrait préciser ce que vous avez. Je vais juste défaire mon transparent parce que je ne vois plus rien, en fait. Voilà. Ça y est, j'ai récupéré la main sur la plateforme. Je vais essayer de lire. J'ai pas compris la question, en fait.
Alors, je la lis. Quelle est proportionnellement la part des comportements par rapport aux algorithmes, entre parenthèses, en chiffres, c'est-à-dire est-ce qu'on a une estimation
alors, je ne sais, de la part relative. C'est marrant parce que ça touche tout de suite à un des points que j'allais évoquer juste après, puisque nous, on va étudier, je vais montrer un cas d'application qui est celui des écoutes musicales après. Donc, on a analysé des données qui sont issues de plateformes comme Spotify, la CFM, donc des plateformes où les gens vont écouter de la musique. Et à travers ça, donc, on analyse le comportement des utilisateurs et dans la première partie de ce que je vais vous montrer dans l'analyse, on ne sait pas très bien quelle est la part du comportement que l'on observe qui est due au fait qu'ils sont exposés à du contenu recommandé avec la part qui est due à leur propre comportement et ce qu'ils recherchent, je dirais, de façon native en allant sur cette plateforme. Et donc, en fait, on ne sait pas très bien. Moi, dans ces études-là, notamment dans l'étude d'avant, j'ai pas de chiffres sur ces éléments-là. Par contre, et j'essaierai de vous y convaincre en arrivant à la fin de l'exposé, nous avons des moyens d'aller attaquer, c'est peut-être pas le bon terme, d'aller analyser, d'aller mesurer l'effet directement des algorithmes, indépendamment du comportement des utilisateurs après coup. Donc ça, c'est très intéressant. Je vais essayer de vous convaincre que c'est intéressant, mais ça a aussi une autre limite. C'est que quand on fait ça, quand on analyse ça, on fait aussi un présupposé sur la façon dont les utilisateurs vont recevoir la recommandation. Par exemple, dans ce que je ferai tout à l'heure, on va analyser la recommandation et on va supposer que l'ensemble des titres musicaux qui sont recommandés par cet algorithme vont être écoutés par les utilisateurs. Et c'est là qu'on va mesurer l'impact que ça a. Donc, vous voyez, soit on va mesurer directement les algorithmes eux-mêmes, mais dans ce cas-là, on ne sait pas très bien mesurer l'influence qu'auraient ces algorithmes de recommandation si on les mettait en pratique, soit on va sur les plateformes mesurer l'interaction assez complexe entre des utilisateurs qui vont sur une plateforme, qui sont exposés à du contenu, qui choisissent ou pas d'écouter. Et dans ce cas-là, on est beaucoup plus fin sur la réalité d'impact de cette exposition, mais on ne sait plus très bien distinguer ce qui est dû à la recommandation de ce qui n'est pas dû à la recommandation. On arrive à le faire quand on a, sur le cas de l'écoute musicale, lorsqu'on accède à des écoutes sous forme de playlist, puisqu'une partie des playlists sont remplies automatiquement par les algorithmes lorsqu'on arrive à la fin de la première partie. Donc ça, on arrive à savoir que si l'écoute continue à se faire, c'est de l'écoute recommandée, mais pour le reste, on a du mal à le différencier. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question, du coup.
Non, mais c'est intéressant. Et est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Non, ce n'est pas le cas. Ou est-ce que quelqu'un veut intervenir directement? N'hésitez pas. Et puis sinon, peut-être Fabien, oui. Enchaîne sur la...
Le temps que je remette mon...
Sur tes recherches et tes résultats.
Ouais. Je reprends sur le transparent. Donc voilà, donc là, je vais me poser une question, disons un contexte un peu plus... Je vais rester générique, mais en même temps, je vais prendre un cas d'application concret. Donc là, on est dans une position où ce qui m'intéresse d'un point de vue recherche, et c'est pour ça aussi que je vous le présente comme ça, c'est pour ça que je prends du temps aussi pour vous montrer cette méthodologie. C'est pas simplement, je sais bien que l'auditoire est assez hétérogène finalement ici, donc le but n'est pas de développer ici des techniques informatiques et mathématiques et d'aller dans le détail de ces choses-là, parce que c'est pas ça que je veux transmettre ici. Mais je veux transmettre ici une expérience de recherche d'un informaticien sur ces questions-là. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est que l'informatique, en tant que communauté scientifique, contribue pas simplement au développement des algorithmes qui sont utilisés ensuite pour classer l'information recommandée. C'est bien sûr une branche de recherche. Bien sûr, une partie de la communauté essaie de proposer de nouveaux algorithmes plus performants, plus efficaces, maintenant beaucoup qui tentent de prendre en compte des aspects éthiques comme la diversité, mais comme d'autres. Mais il y a aussi une communauté comme la mienne, comme mes travaux, qui tentent de proposer des outils informatiques, mathématiques, mais qui vont contribuer à l'analyse et au progrès de la connaissance sur ces questions-là. Alors, il se trouve que moi, dans mon domaine, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que les aspects, les structures relationnelles, comment exploiter les structures relationnelles pour dire des choses sur mes objets d'études. Donc ici, ça va être la diversité, mais j'ai toujours un angle d'approche qui est celui du réseau. Donc là, l'idée, c'est d'aller regarder ce que font les systèmes de recommandation, typiquement sur des plateformes comme Amazon, dans lesquelles on va vous recommander des produits achetés, donc Facebook, dans lequel on vous recommande du contenu à lire, Spotify, Deezer, Last.fm, dans lequel on va vous recommander de la musique à écouter, Netflix, on va vous recommander des films à regarder, etc. Et dans tous ces contextes-là, en fait, on a des données relationnelles, puisqu'on a d'un côté des produits ou des papiers ou des musiques qui sont associés à des utilisateurs qui les achètent, lisent ou écoutent. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un graphe, graphe parce qu'il y a l'aspect relationnel, et bipartite parce qu'en fait, on distingue deux types de nœuds. Il y a le nœud utilisateur et puis il y a les nœuds, disons, produits. Et en réalité, il y a deux graphes bipartites qui interviennent ici. Il y a celui qui relie les utilisateurs aux produits, mais les produits eux-mêmes appartiennent à des catégories. Donc pour les titres musicaux, ça va être des catégories musicales. Pour le contenu informationnel, ça peut être soit la thématique internationale, sport, divertissement, ou alors si c'est des sujets politiques, la coloration politique de l'article, etc. Donc, on a en réalité une structure à trois niveaux qu'on appelle des graphes tripartis, dans lesquels on a des utilisateurs d'un côté qui sont associés à des contenus et ces contenus sont associés à des catégories. Et c'est ça la question qui a animé la recherche récente dans ma communauté, notamment dans cette ANR que j'évoquais qui s'appelait AlgoDiv et dans le cadre d'une thèse qui était soutenue il y a quelques mois par mon doctorant qui s'appelait Rémi Poulain sur ce sujet, c'était de comprendre comment on pouvait exploiter l'information contenue dans ces structures relationnelles pour dire quelque chose de la diversité. Alors, la diversité, en ayant en ligne de mire une façon très... un parti pris sur ce que l'on va considérer comme quelque chose de diversifié et quelque chose de non diversifié, qui est purement relationnel. Donc, on a ici quelque chose qui, pour nous, est une diversité parfaite, où on voit une distribution uniforme des produits associés à des utilisateurs. On a un petit peu tous les produits qui sont écoutés par ou achetés ou consommés par un petit peu tous les utilisateurs. À l'inverse, on a ici l'image de, vous voyez, quelques produits qui captent l'attention de quasiment tous les utilisateurs. Et donc, c'est cette distinction un petit peu sommaire, hein, ici, entre une bonne diversité et une mauvaise diversité que l'on va essayer de mesurer dans ces plateformes-là. Sachant qu'évidemment, en réalité, sur les plateformes, ce n'est jamais à ce point-là blanc ou noir. Et le but du jeu, c'est d'avoir une échelle graduée qui nous permette de savoir où nous positionner. Alors, dans ce contexte-là, en réalité, la diversité, c'est quelque chose qui est traité dans une littérature assez vaste. d'indices, de mesures de diversité, et en fonction du champ disciplinaire, on a des indices sensiblement différents. Je vais choisir aujourd'hui celui qu'on appelle Erfindal Hirschman, que les économistes qui sont présents derrière les écrans connaissent sûrement, puisque c'est un indice qui permet de mesurer le taux de concentration typiquement dans un marché. Alors, je l'aime bien parce que du coup, il a une version un petit peu interprétable. Vous prenez la part, vous regardez les entreprises qui sont sur un secteur, vous regardez la part de ces entreprises sur le marché existant, vous faites la somme du carré de ces parts et vous obtenez un score. Et plus il y a une situation de monopole, plus ce score est élevé. Donc, vous avez comme ça une manière d'évaluer à quel point il y a des situations de monopole. Alors, nous, on l'utilise différemment puisque nous, on valorise non pas le monopole, mais au contraire la diversité. Mais disons que c'est un petit peu le même principe. Et en fait, en travaillant un tout petit peu à partir de cette idée de ce genre d'index, on arrive très bien à caractériser la diversité parfaite en ayant le meilleur score possible, la pire diversité en ayant le pire score possible. Donc, c'est quelque chose qui est assez classique. La question qu'on s'est posée, c'est ces indicateurs classiques, est-ce qu'on est capable de les relier aux structures relationnelles? Et si oui, comment le faire proprement? Et c'est ça que je vais essayer de développer ici. Alors, je vais le définir un peu plus précisément dans quelques slides, mais l'idée, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si on est capable de le faire, alors on peut distinguer des comportements d'utilisateurs ou distinguer des comportements de catégories, pas simplement en regardant combien de produits ils consomment, combien de musique ils vont écouter, mais en regardant réellement comment ce qu'ils consomment sont reliés aux catégories. Là, je prends l'exemple de deux utilisateurs. Vous voyez que ces deux utilisateurs-là, 2 et 5, ils ont a priori le même comportement dans le sens où tous les deux sont exposés à deux contenus, lui P1-P2 et lui P2-P4. Simplement, la manière dont ces produits peuvent être définis en fonction des catégories montre que le comportement est très différent. On a ici un utilisateur qui, en fait, se ramène toujours à la même catégorie dans sa consommation de l'espace, ici, alors que l'utilisateur U5, par le simple choix de ces deux articles-là, montre une certaine diversité puisqu'il arrive à toucher à l'ensemble des catégories. Et ça va se retrouver dans les métriques. On va retrouver une métrique qui va nous indiquer que la diversité de cet utilisateur ici est bien plus élevée que la diversité de cet utilisateur-là. Et on peut faire la même chose si on se concentre sur les catégories. Si on regarde la diversité de l'audience de ces catégories, alors on va remarquer que cette catégorie-là est beaucoup plus équilibrée dans sa manière d'atteindre l'utilisateur que celle-là qui, in fine, passe essentiellement par un produit pour toucher ses utilisateurs. Et donc, c'est ça qu'on va tenter de faire. Et pour ne pas rester dans le domaine de la formalisation et vous l'illustrer, je vais prendre un cas d'étude qu'on a un petit peu étudié, qui est celui de l'écoute musicale. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails du jeu de données, puisque le but, ce n'est pas de dire des choses fines sur l'écoute musicale. Ce n'est pas ça qui me motivait ici. On prend l'écoute musicale comme un exemple, une illustration de notre approche, mais on ne cherche pas à dire des choses trop fines dans ce contexte-là. Mais enfin, voilà à quoi ressemblent les jeux de données. Donc là, on a pris un jeu de données qui était issu de The Econess, qui a été racheté par Spotify. Et donc, on a énormément d'informations sur les écoutes des utilisateurs. Alors, on a très peu d'informations sur les utilisateurs eux-mêmes. Tout ça est anonymisé, donc on ne sait pas vraiment quel est le profil des gens qui écoutent la musique. Mais on sait ce qu'ils écoutent. On a 1 million d'utilisateurs qui écoutent à peu près 300 000 chansons et on a à peu près 10 000 catégories musicales qui sont sur cette plateforme. Après un petit peu de travail. On a un petit peu la même chose sur Amazon, avec le même genre d'ordre de grandeur. Donc, on n'a pas 1 million, mais on a 500 000 utilisateurs, 450 000 chansons, et beaucoup moins de tags pour le coup, 250 seulement catégories musicales. Ce que montrent ces études-là, ces analyses structurelles de ce jeu de données, c'est qu'on est en phase de jeu de données classique quand on s'attaque à des réseaux réels. On a de la forte hétérogénéité au point de vue, par exemple, au point de vue ici, des chansons, c'est-à-dire qu'il y a des titres qui sont énormément utilisés, qui sont écoutés à peu près 10 000, voire 100 000 fois. Et puis, on a quelques titres, on a beaucoup de titres qui ne sont pas du tout écoutés ou étudiés quelques unités de fois. Et puis, on a une hétérogénéité en termes de popularité des titres, des catégories musicales. Il y a des catégories musicales qui sont extrêmement écoutées, typiquement le rock et le pop. Et puis, on a des catégories musicales qui sont plutôt des niches, qui ont une faible audience. À l'inverse, on a quelque chose d'assez homogène si on se concentre sur les utilisateurs eux-mêmes. On a une notion d'utilisateur moyen qui écoute entre quelques dizaines de titres et quelques centaines de titres dans cette plateforme. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, quels que soient les contextes d'études sur lesquels on s'est concentré, on retrouve ce genre de phénomène-là. C'est-à-dire une hétérogénéité au niveau de l'offre de la plateforme et, par contre, quelque chose d'homogène du point de vue du comportement des utilisateurs. Alors, pour être même un peu plus précis, voilà, typiquement, la donnée d'un utilisateur. Donc ça, je prends un utilisateur ici sur la plateforme, c'est sur Amazon ici, et vous avez un graphique qui décrit le comportement d'écoute d'un utilisateur. Vous avez en abscisse l'évolution temporelle et vous avez en ordonnée les différentes catégories musicales parmi toutes celles qui existent. Et vous avez un point bleu ici à chaque fois que cet utilisateur a écouté un titre musical. Et donc ce point bleu, il est répertorié en fonction de quand est-ce que la personne a écouté et quelle est la catégorie musicale à laquelle est rattaché ce titre-là. Ce que nous, on va chercher à capturer, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre la diversité de cet utilisateur au sens où, ici visuellement, ce qui nous intéresse de capturer, c'est ça, c'est cette partie, c'est que manifestement, le comportement régulier de cet utilisateur, c'est d'écouter, d'être confronté à un univers musical qui se décline de rock à jazz en passant par classique rock, blues, alternative rock, danse électrique, R&B, pop. D'accord ? Donc un univers musical assez restreint, finalement. Enfin, ça dépend comment, de quel point de vue on voit, mais qui est large, mais qui est recentré sur un certain type de musique. Alors, comment on fait pour faire ça ? Donc, ça, c'est sur un utilisateur. Nous, maintenant, on voudrait le faire de façon un petit peu objective sur l'ensemble des utilisateurs. Et donc, on va essayer d'analyser ici, dans un premier temps, la diversité, alors non pas des utilisateurs, mais des catégories musicales elles-mêmes. Quelle est la diversité de l'audience des catégories musicales sur ces plateformes ? Comment on fait ça ? Eh bien, c'est simple, une fois qu'on a tout mis en place, on fait ce qu'on appelle des marches aléatoires dans les graphes. Donc, on part d'un sommet du graphe, par exemple la catégorie pop, et on se déplace aléatoirement sur cette structure en regardant comment est-ce qu'on atteint les différents utilisateurs. Si on fait ça, alors on obtient ce qu'on appelle une distribution de probabilité, c'est-à-dire on a la probabilité d'atteindre un utilisateur parmi d'autres au sein de cette plateforme, et cette distribution de probabilité que je dessine ici comme ça, c'est elle que l'on va synthétiser, que l'on va capturer avec des indices dont je parlais avant, qui sont typiquement des indices de dispersion ou des indices de diversité. Donc ici, dans le cas, c'est Erfindal. Et ça me donne un score. Et c'est une fois que j'ai fait ça, que pour un nœud, je peux le faire pour l'ensemble des nœuds de la plateforme et donc pour l'ensemble des catégories musicales. Et donc, ça nous permet de regarder pour chacune des catégories à quoi ressemble la diversité de son audience. Alors là, je ne vais pas passer du temps pour parler de celle-là parce que ce n'est pas la partie qui m'intéresse. Mais on pourrait creuser un petit peu ici, et je pourrais, si ça vient dans la discussion, essayer d'approfondir un petit peu ce que l'on apprend sur la manière dont les différentes catégories musicales montrent ou ne montrent pas de la diversité dans leur public. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder l'autre sens, c'est-à-dire de partir non pas d'un sommet qui est un sommet catégorie, mais de partir d'un sommet qui est un sommet utilisateur. Alors là, si on regarde la diversité des utilisateurs, donc là, je prends l'ensemble des utilisateurs de la plateforme, je calcule leur score de diversité selon notre approche. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a, de même qu'il y avait une notion de comportement moyen des utilisateurs, on a une diversité moyenne. L'utilisateur, il a une valeur de la diversité qui est assez resserrée sur l'échelle des valeurs possibles, sachant que le maximum est très éloigné du maximum qu'on observe ici. La valeur médiane qu'on observe, c'est 59. Le score théorique que l'on pourrait atteindre, c'est-à-dire l'utilisateur parfait en termes de diversité, il aurait un score de 1000. Donc, vous voyez qu'on est très loin de cet idéal en termes de diversité. Donc, la question qu'on va se poser ici, et c'est là où ça commence, à mon avis, à devenir intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment s'opère cette diversité, par où elle vient et comment elle émerge. Donc, par exemple, on peut se demander si la diversité est liée au volume d'écoute d'un utilisateur. Et ça, c'est les graphiques que vous voyez ici, c'est ce qui montre. Vous avez ici une moyenne avec différents percentiles de la diversité en fonction du volume d'écoute des utilisateurs. Et on voit une progression ici qui, dans les deux cas, montre quelque chose qui était déjà connu des analyses, je dirais, qualitatives sur ces plateformes, c'est qu'il y a une sorte de saturation en termes de diversité musicale. Ce qui est bien naturel, en fait, quand on y pense. Quand on va sur ces plateformes pour écouter la musique, on y va avec nos propres goûts, et il est normal que l'on ne soit pas en train continuellement d'écouter de la musique qui passe du punk, du métal, jusqu'au gospel et au flamenco. Donc, c'est ça, simplement, qu'on en arrive à voir ici. Ce qui nous a intéressé dans cette démarche, c'est que ça, c'est un phénomène que l'on observe, donc qui est tout à fait en accord avec d'autres études sur ces plateformes. Et ce que l'on peut se demander, c'est... Ça, c'est une observation. Donc, observer un phénomène, c'est bien, mais expliquer pourquoi ce phénomène émerge, c'est mieux. Enfin, disons que c'est une seconde étape intéressante. Et c'est ça qu'on peut commencer à faire avec ce genre de formalisme. Donc, ça explique pourquoi la diversité, ça montre que la diversité est faible, mais ça ne nous dit pas pourquoi cette diversité est faible. Et là, on a des techniques, nous, dans le domaine des approches formelles et notamment en termes de réseau, qui est de passer par des modèles. Et les modèles dans le domaine des réseaux, ce sont des modèles de génération aléatoire de structures. Et on a commencé à faire ça. On a commencé à regarder, en fonction de différents modèles d'association entre des utilisateurs et des catégories, qu'est-ce que ça donnait. Donc, si on reformule le problème, si on oublie un petit peu l'aspect réseau, l'aspect graph, en fait, on est en train de se demander comment des utilisateurs se rattachent à des catégories. Et avec un petit peu de travail, on arrive à mettre en évidence, alors ce qui apparaît ici comme une formule, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques paramètres dans la manière pour les utilisateurs d'être associés à ces catégories, et c'est la manière dont ces paramètres vont être définis qui vont définir comment, quelle serait la diversité moyenne attendue d'un utilisateur selon ce modèle. Et on a tenté de regarder 4 modèles différents. Comme toujours, dans ces approches, on commence par un modèle qui est le plus stupide possible pour essayer d'avoir ce qu'on appelle des baselines, des nuls modèles en physique, pour essayer d'avoir une limite en termes de simplicité sur la diversité. Donc là, on pourrait tout à fait imaginer que les utilisateurs soient associés de façon totalement aléatoire aux catégories. C'est ce qu'on a appelé le baseline. Très peu d'intérêt pour expliquer les phénomènes, mais ça nous donne une limite, disons, dans la progression de cette diversité. On a un modèle qu'on a appelé Song Uniforme, où on se dit les utilisateurs vont choisir de façon uniforme des titres, indépendamment du profil de ces titres musicaux. On a ensuite, là on commence à toucher à des choses un peu plus réalistes, l'utilisateur va choisir des titres musicaux, mais de façon préférentielle en fonction de la popularité de ces catégories musicales. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent, c'est typiquement l'approche par attachement préférentiel que l'on retrouve dans les modèles de Barabasi dans les réseaux. Donc c'est de se dire que les catégories qui sont les plus disponibles sur une plateforme vont être celles qui vont être les plus choisies par les utilisateurs. Donc c'est pour nous une forme de une façon de tenir compte de la pression sociale qui est liée à la popularité de certains titres et de certaines catégories musicales sur ces plateformes. Et le dernier, qu'on a appelé user dependence, c'est le fait que lorsque les utilisateurs commencent à écouter des musiques, eh bien, ils se mettent en général à réécouter des musiques de la même catégorie. Et donc, on a aussi rajouté ça dans les modèles. Ça nous fait 4 modèles avec des ingrédients plus ou moins réalistes. Et le but, c'est de regarder ce que ces modèles très abstraits, très synthétiques, très idéalisés du comportement des utilisateurs nous disent au regard de la diversité que l'on observe en vrai sur ces plateformes. Et vous voyez là, alors je vais me concentrer sur celle de gauche, la progression, cette saturation de la diversité en fonction des modèles. Donc, ce qui m'apparaît clairement quand j'essaie d'analyser et d'interpréter ces courbes, c'est que les deux premiers modèles se montrent qu'il y a un écart très fort avec ce qu'on observe. Par contre, les deux suivants, donc celui qui intègre la notion de popularité musicale et celui qui intègre en bleu, en plus, les phénomènes de répétition dans le comportement des utilisateurs, sont ceux qui collent le plus à la non-diversité observée dans ces plateformes. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de remarquer que, en fait, même si bien sûr le dernier qui est le plus poussé, qui est le plus réaliste, est aussi le plus proche des données observées, les données observées, c'est la courbe en noir, celui qui était juste avant, c'est-à-dire celui qui ne tenait compte non pas du comportement répétitif des utilisateurs, mais simplement de l'effet de la pression, de la popularité des titres, suffit à expliquer cette saturation et cette non-diversité sur les plateformes. Donc ça, c'est une manière pour nous de dire que ici, s'il fallait conclure, mais il n'y a pas assez d'éléments pour en arriver à une conclusion, mais disons que c'est les éléments qui sont montrés ici tentent à montrer que la pression extérieure de ce qui est exposé aux utilisateurs a un poids, en particulier un poids sur la non-diversité que l'on mesure par la suite. Alors, je finis dans deux transparents et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est ouvrir sur la question de la recommandation en elle-même. Donc, je fais juste un tout petit point ici, et peut-être que je peux prendre des questions s'il y a des questions qui ont surgi entre-temps. Mais qu'est-ce qu'on a fait dans ce travail-là ? On a, alors, d'un point de vue purement scientifique, donc ça, c'est le message que j'adresse à, je dirais, à la communauté des sciences dures qui est derrière leur écran, donc informatique, mathématiques. Ce que l'on a fait dans ce travail-là, formellement, c'est de réconcilier, c'est peut-être pas le bon terme, parce que ce n'était pas en opposition, mais de réunir des approches de type marche aléatoire sur des structures relationnelles avec des indices de diversité classiques. Et on l'a fait de manière assez formelle, assez solide, et la publication qui montre les fondations théoriques de cette approche-là, elle vient d'être publiée dans un journal qui s'appelle Theoretical Computer Science, et je vous invite, pour ceux qui s'intéressent, à lire cette partie-là. Ce que j'ai tenté de montrer ici, c'est que avec ce genre d'infrastructure, on était capable de mesurer la diversité des nœuds dans un réseau, donc les nœuds peuvent être des utilisateurs, les nœuds peuvent être des catégories. Si j'avais le temps, je pourrais aussi vous montrer comment on l'a fait sur des données de l'INA. Donc, on peut aussi regarder la diversité de chaînes d'informations en fonction du profil des invités qui sont dans les émissions. Donc, vous voyez, tout ça est réutilisable en fonction du contexte d'étude et de la nature des nœuds dans ce réseau. Et j'ai tenté de montrer ici qu'on pouvait non seulement participer à de l'analyse de données, donc notamment remettre en lumière les phénomènes de saturation dans la diversité des écoutes, mais aussi participer à l'explication de d'où ça vient. Donc ici, la non-diversité, elle vient de, dans notre perspective, de facteurs qui sont exogènes au comportement intrinsèque de l'utilisateur qui a un comportement récurrent. Maintenant, j'aimerais vous amener... Alors, bien sûr, dans ce genre d'études, puisqu'on étudie la plateforme, par exemple Spotify, on étudie à la fois le comportement de l'utilisateur, mais aussi son comportement suite à une exposition, à une recommandation. Donc, quelque part, cela participe aussi de l'analyse de l'effet des algorithmes de recommandation. Mais disons qu'on ne maîtrise pas bien quelle est la part ici dans l'écoute de l'utilisateur, de son écoute propre, de celle qui résulte de l'exposition à une recommandation. Et je voudrais vous amener là, dans les deux derniers transparents, à vous montrer comment est-ce qu'on peut le faire directement. Et je milite pour qu'on essaye de faire ça de façon un peu plus systématique, qu'on aille regarder de façon beaucoup plus précise comment les algorithmes de recommandation fonctionnent et comment ces algorithmes de recommandation influent sur la diversité ou non. Alors, d'un point de vue purement formel, ce n'est pas très dur, en fait, puisque vous voyez jusqu'à présent le lien entre un utilisateur et une musique, c'était un lien qui disait, la sémantique de ce lien, c'était une musique est écoutée par un utilisateur. Mais en fait, si on a des traces de recommandation, on change simplement le sens de ce lien. On construit un graphe dans lequel on relie des musiques aux utilisateurs lorsque les musiques ont été recommandées aux utilisateurs. Et ça nous fournit à nouveau un graphe tripartite. On peut réappliquer exactement le même genre d'approche. Alors ça demande d'avoir des traces réelles. Donc ça demande quoi? Ça demande d'être à l'intérieur de ces plateformes et d'avoir accès aux recommandations qui sont faites à chaque utilisateur. Vous l'imaginez, ce n'est pas évident de le faire. Alors, on peut essayer de le faire par des méthodes de mesure à travers des API, mais en général, c'est difficile de l'avoir par utilisateur. Ou alors, il faut construire des consortiums avec des partenaires de ces plateformes-là, ce que l'on fait aussi de temps en temps, pour être à l'intérieur et faire de l'analyse de l'intérieur. L'autre manière, qui est celle sur laquelle on a commencé à travailler, c'est de faire des simulations. Parce que finalement, les techniques de recommandation de ces plateformes, elles sont connues. Elles sont connues du monde de la recherche et on sait les mettre en œuvre et les simuler. Et c'est ça que je vais vous montrer pour finir. Et ce que l'on aimerait en fait avoir, c'est les deux, c'est-à-dire avoir à la fois les traces de recommandations, mais aussi les traces du comportement des utilisateurs suite à ces recommandations, pour être capable de comprendre si, en l'occurrence, en ce qui nous concerne la non-diversité, vient avant tout des algorithmes ou des utilisateurs ou du fait que les utilisateurs sont exposés à des choix non diversifiés. Une autre branche, avant que je passe sur les premiers exemples de simulation, c'est aussi d'incorporer des mesures de diversité dans les systèmes de recommandation. Donc, pas simplement être acteur de la mesure de l'impact des recommandations, mais de participer à l'optimisation des systèmes de recommandation tenant compte de ces critères-là. Et ça, c'est tout à fait possible, puisque là, on est vraiment dans une démarche où on attribue un score qui peut être critiquable, on peut en discuter, mais qui est un score qui quantifie la notion de la diversité. À partir de là, ce n'est pas très dur d'incorporer ce score comme un critère d'optimisation dans la recherche de la recommandation. Alors, ce n'est pas quelque chose sur lequel je m'attaque, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut aussi travailler. Voilà comment on a commencé à le faire, et je vais terminer sur ces deux derniers transparents qui montrent des premières étapes. Et là, on a vraiment attaqué des algos de recommandation. Donc, on a pris un algo classique de recommandation qui est encore beaucoup utilisé en partie par les grandes plateformes. Donc, typiquement Netflix, YouTube, Amazon utilisent des méthodes dites de collaborative filtering. Le principe est assez simple, hein, c'est on regarde ce que les utilisateurs ont, alors je vais prendre Amazon par exemple, acheté, et puis à partir d'un panier d'achat passé, à partir d'un comportement d'achat passé, on va regarder ce que les utilisateurs similaires, c'est-à-dire les utilisateurs qui ont acheté la même chose que vous, ont acheté aussi que vous n'avez pas acheté. Et on va tenter d'essayer de se débrouiller pour déterminer quels sont les produits à vous exposer que vous allez probablement vouloir acheter. Donc ça, c'est des techniques qui s'appellent des factorisations matriciennes et qui permettent de faire ça très bien. Donc ça, on a fait ça, on a repris des jeux de données d'écoute musicale. On a, alors c'est un travail qui est pas anodin, qui n'est pas simple, mais on a passé du temps à entraîner un modèle sur des données d'écoute, ce qui nous permet de prédire le score de confiance entre une musique qui n'a pas été écoutée et un utilisateur en particulier, donc de classer, de faire un ranking comme peuvent le faire les grandes plateformes des musiques à proposer aux utilisateurs et puis d'en sélectionner un certain nombre et de regarder ensuite comment cette exposition à de la recommandation modifie la diversité. Et là, les premiers résultats sont assez intéressants, je trouve, et vont plutôt dans le sens de du papier de Bakshi et Adamic sur le fait que le newsfeed n'est pas responsable de l'enfermement idéologique des gens sur ces plateformes, en tout cas de la polarisation des gens sur les contextes politiques. Vous avez là, en fait, donc vous avez ici, on va regarder celui de gauche, ça c'est le cas où on recommande 10 titres musicaux aux utilisateurs. Vous avez en abscisse le score de diversité des utilisateurs avant la recommandation, et vous avez en ordonnée comment est modifié. Donc, soit on augmente la diversité si on est dans le positif, soit on rétrécit la diversité, on diminue la diversité des utilisateurs, si l'utilisateur écoute les 10 titres, les 10 premiers titres qui lui sont exposés. Et vous voyez qu'il y a énormément d'individus ici pour lesquels la diversité est augmentée par la recommandation. Alors, ce n'est pas le plus nombreux, le plus grand corpus se trouve en bas, mais pour moi, ça montre qu'il n'est pas possible de dire, de résumer l'impact des algorithmes en les algorithmes enferment les utilisateurs sur ces plateformes. Au contraire, si les utilisateurs font preuve d'un minimum de diversité, donc se retrouvent plutôt vers la droite du graphique, alors l'algo de recommandation, en tout cas l'algo qu'on a regardé et en tout cas dans le contexte dans lequel on l'a plongé, est capable de détecter qu'il y a un goût pour la diversité musicale, en l'occurrence, et de favoriser cette diversité musicale. Alors, c'est évidemment complètement préliminaire, hein, c'est des premières tentatives de mesure de la diversité due à la recommandation algorithmique. Et alors, par contre, ce qui nuance quand même le propos que je viens de faire, c'est lorsque l'on augmente la diversité. Donc, vous avez à droite, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on passe de 10 titres recommandés à 500 titres recommandés? Et là, vous voyez que l'augmentation de la diversité est beaucoup plus restreinte. Il y a encore des utilisateurs qui arrivent à être favorisés par cette exposition à 500 titres musicaux, mais la plupart d'entre eux plongent en termes de diversité. Et donc, on voit bien en fait que la diversité elle-même, si dans les quelques premiers instants de la recommandation, elle arrive à favoriser la diversité, en réalité, lorsqu'elle commence à noyer l'utilisateur dans la diversité, ben, elle-même, la recommandation elle-même s'enferme dans une forme de stéréotype de l'utilisateur et se met à casser ce premier effet de diversité. Voilà, je pense que c'est le moment d'arrêter le discours un peu magistral et de passer peut-être aux séances de discussion et d'échange. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, des commentaires, des nuances à apporter, des critiques constructives. Voilà, je vais couper peut-être le diaporama pour que je puisse vous voir si vous prenez la parole. Je vois des noms.
Il y a quelques questions dans le chat. On peut peut-être commencer par là. Une première question qui est arrivée il y a un moment déjà d'Eric arrivé, je te la lis. On peut percevoir en tant qu'usager que les algorithmes proposent des recommandations, mais est-ce que la raison de leur mise en œuvre par les opérateurs, est-ce la raison de la mise en œuvre par les opérateurs des plateformes de ces algorithmes? Et si oui, peut-on considérer que c'est leur effet déterminant? Je ne sais pas si tu...
Alors, tel que je comprends la question, je la relis en même temps. Ce que dit Eric, c'est qu'on a tous une perception de la recommandation sur ces grandes plateformes. Là, j'ai cité Spotify, donc ça c'est très clair sur Spotify, mais sur YouTube aussi. On voit bien que quand quand on regarde une vidéo, on nous en propose des nouvelles, qu'elles sont associées à la thématique. Donc, je le vois comme ça. On a une perception du fait qu'il y a l'existence d'un comportement algorithmique derrière. Et est-ce que c'est déterminant dans notre choix? Moi, j'ai pas, mais c'est dû à mon approche et à ma discipline. Moi, je suis très peu, j'ai cité le papier de Epstein, qui est une étude comportementale, mais en fait, c'est très peu mon domaine, ça. Moi, mon domaine, il est vraiment sciences fondamentales, mathématiques, informatique théorique. Et du coup, les études que je connais le mieux sont des études qui ne cherchent pas à comprendre le lien entre la recommandation et, je dirais, l'effet, le comportement de l'utilisateur. Tout simplement parce que c'est pas mon expertise, c'est pas mes compétences, disons. Non pas que je n'en ai pas intérêt, je pense qu'elles sont intéressantes, mais moi, je n'en ai pas connaissance de ce genre de mesures fines sur l'effet de la recommandation. Par contre, on a conscience, mais je le connais plus dans des contextes où on place la recommandation dans des systèmes d'aide à la décision. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup regardé dans le domaine juridique, parce qu'on voit arriver en France, ça existe depuis pas mal de temps dans d'autres pays, mais on voit arriver en France la question de l'accompagnement des décisions juridiques par des recommandations algorithmiques. Et je regarde comment ça s'opère, quels choix sont faits, etc. Et dans ce genre de situation, on a des études qui nous montrent que il y a des biais de confirmation qui se retrouvent dans les approches algorithmiques. On connaît bien ces études de biais de confirmation et on les montre aussi lorsque les gens sont exposés à la recommandation algorithmique, qui est souvent auréolée d'abord d'un calcul sur l'ensemble des données, alors que les humains ont une vision limitée des informations. Et puis, on présente souvent les algorithmes comme neutres, comme objectifs, ce qui est en un sens faux, hein, les démarches algorithmiques, elles portent en elles un projet politique, qu'il soit conscientisé ou pas. Et donc, cette aura fait qu'elles ont une influence assez forte sur les décisions. Mais je ne saurais pas préciser beaucoup plus ces éléments-là. C'est pareil, hein, Eric, je ne sais pas si je réponds à votre question.
Vous m'entendez?
Oui.
Mais je disais oui, ça répond effectivement à la question. Et j'avais entre-temps ajouté quelques reformulations dans le chat, mais ça effectivement ça donne des indications sur ce que sur le point que je voulais sur lequel je voulais des compléments. Merci.
D'accord.
Une question de Liane Huttner. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Avez-vous des sources particulières sur les biais de confirmation dans les aides à la décision juridique?
Alors, c'est intéressant parce que. Alors, non. Alors, pardon. On a une étude que je trouve qui a été la plus commentée, qui est un cas. Donc, pardon. Donc, il faut que je repositionne le débat. Dans le contexte judiciaire, la question, c'est d'épauler le métier de la justice, disons, avec des outils algorithmiques. Là où c'est le plus pénétrant, le plus proche de la décision, c'est aux US, parce que les tribunaux sont équipés de systèmes d'aide à la, enfin de systèmes de recommandation. Notamment dans la prédiction du risque de récidive. Donc, ça intervient lorsque les juges ont un prévenu. Et qu'est-ce qu'on fait de ce prévenu dans l'attente du procès? C'est-à-dire, avant de décider s'il y a une culpabilité ou pas, est-ce qu'on relâche le prévenu ou est-ce qu'il fait la détention préventive? Et dans cette décision-là, les juges utilisent tout un tas d'informations, dont un score qui est édité par plusieurs logiciels, mais peut-être le plus connu est Compass, qui attribue un score de risque de récidive au prévenu, en fonction de données qui sont à la fois des données sur le passé criminel, la situation personnelle, familiale, etc. Et puis des données liées à l'infraction. Bon, il faudrait que je détaille ici un petit peu. Et là, même là, c'est très dur de savoir. Le juge ensuite prend une décision et c'est quand même très dur de savoir quelle est la part de ce score sur la décision. On a un cas où on sait, parce que le juge explicitement s'appuie sur le score de Compass, qui était ce logiciel-là, pour prendre la décision. Mais sinon, c'est extrêmement dur. Par contre, je me souviens d'une étude, il faudrait que je la retrouve, je ne pourrais pas vous la citer là, mais une étude faite par la I3E, donc une association, on a deux grandes sociétés savantes mondiales sur l'informatique, il y a ACM et I3E, et I3E est très investie sur les questions éthiques, notamment dans le domaine de l'IA et de la robotique. Et je me souviens avoir vu passer un rapport qui évoquait une étude assez précise dans un contexte militaire. Donc là, c'était des militaires qui étaient exposés à la recommandation sous forme de simulation. Ce n'était pas dans des vrais cas d'exercice, mais quand même. Et si je me souviens bien, comme dans beaucoup d'études, on présente des dossiers dans lesquels il y a tout un tas d'informations qualitatives, quantitatives, et on amène les participants à prendre des décisions. Donc je vais caricaturer parce que je suis plus sûr que ce soit ça, mais ça va être frappe ou pas frappe, par exemple. Donc déclencher une frappe ou pas déclencher une frappe. Mais c'était de cet ordre-là, c'était pas ça, mais c'est dans cet ordre-là. Et puis de temps en temps, dans le dossier, on change complètement une donnée quantitative. Et on fait en sorte qu'elle aille complètement à l'encontre de l'ensemble des autres informations. Donc l'idée derrière, c'est de se dire qu'on change une information, pas n'importe laquelle, mais on change une information. Mais si tout était pris de la même façon, le poids de l'ensemble des autres indicateurs plus qualitatifs qui tendraient à amener dans une décision, on va voir si en changeant une donnée qui est au contraire présentée algorithmiquement ou qui est présentée comme une recommandation quantitative, influe le choix. Et alors bien sûr, pour beaucoup, ça ne le change pas, mais pour une proportion significative, ça change leur manière de réfléchir sur les dossiers. Et c'est ce genre d'études que j'ai en tête, mais là, celle-là, il faudrait les fouiller dans les rapports de la I3E pour retrouver ça. Je me souviens que c'était dans un contexte militaire, mais là, comme ça, je ne saurais pas en dire plus. Mais vous voyez, c'est en lien avec toutes ces grandes études un peu comportementales là, Vous vous souvenez de cette histoire, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, cette histoire du bâton où on demande aux participants de décider quel bâton est plus grand qu'un autre, et puis on les soumet à la pression de leur père. Donc, c'est des gens qui se mettent autour d'une table et qui doivent décider. Et puis, les 9 personnes sur 10 font partie de l'expérience, c'est-à-dire vont dire quelque chose qui est contraire à l'évidence. Il y a quelque chose de très factuel entre un bâton qui est plus grand qu'un autre. Et on regarde à quel point la 10e personne qui n'est pas au courant que les autres sont partie prenante va être influencée et va elle aussi dire « Oui, bah, je suis d'accord, ce bâton est plus grand alors qu'en fait, il est plus petit. » Vous voyez, c'est ce genre d'études-là où on fausse des données pour voir comment réagissent les gens. Pareil, je ne sais pas si ça...
Super. Alors, en fait, on n'a pas tant de questions, mais on a des questions assez longues. Donc, peut-être le plus simple, c'est que ceux qui posent les questions dans le chat le fassent à l'oral. On avait une première série de questions d'Arnaud Kless, par exemple, et puis ensuite Dominique Cardon. Si jamais vous êtes là encore.
Arnaud Kless, je vois son nom.
Arnaud. Ouais, super. On ne t'entend pas, par contre, Arnaud.
Pourtant, il y a le micro allumé, donc ça doit être un...
Ah. Est-ce que vous m'entendez maintenant?
Ouais, super.
Super. Voilà, donc, peut-être une première question qui était celle justement qui rejoint celle de Dominique Cardon sur la diversité. Dans quelle mesure est-ce que cette focale sur la diversité ne cache pas peut-être d'autres usages? Je prends par exemple l'exemple de l'écoute musicale en ligne. On pourrait avoir un utilisateur qui, effectivement, dans sa relation avec le système de recommandation, va plutôt affiner une expertise dans un genre particulier. Va donc avoir un profil qui n'est pas du tout diversifié, mais qu'on ne peut pas nécessairement qualifier de nocif pour autant, en tout cas de non souhaitable par rapport. Et pourtant, j'ai l'impression que la littérature s'intéresse énormément à cette idée de diversité. Donc, est-ce que, du coup, pousser la diversité dans la conception de ces systèmes ne va pas juste déplacer le problème ailleurs? Est-ce qu'il ne faut pas s'interroger aussi sur la façon dont l'utilisateur peut s'approprier ces dispositifs et peut-être choisir la recommandation, la logique de recommandation? Voilà, je vous laisse
répondre. Alors, c'est de ma faute, c'est une précaution que je n'ai pas prise et je me rends compte que du coup, ça peut être mal perçu. Je ne crois pas une seule seconde qu'il faille imposer de la diversité, quelle que soit la plateforme. Alors, dans le contexte de l'écoute musicale en particulier, quand je vais, moi-même, j'utilise des plateformes pour écouter de la musique, j'écoute un certain type d'écoute, il faudrait bien voir que la plateforme me force à écouter une musique d'un univers que je n'aime pas. Quel serait l'impératif moral que je sois exposé à tout le type d'écoute musicale? Et même dans un contexte politique, dans les études qui se rapprochent des contextes de débat sur la vie démocratique de nos sociétés, je suis un peu plus sensible à l'idée, mais c'est une idée personnelle, que moi, en tant que citoyen, bah, c'est pas mal que je sois un petit peu au courant des différentes manières d'aborder un sujet politique qui touche à des sujets de société. Moi, je donne de la valeur à ça et je fais un petit peu en sorte, d'ailleurs, de ne pas lire tout le temps les mêmes journaux, tout le temps les mêmes points de vue, tout le temps les mêmes personnes. Mais ça ne m'amène pas à dire qu'il faut que les gens s'informent de façon diversifiée, même dans ces contextes-là. Et là, pour le coup, vous avez effectivement pas mal de gens qui militent pour que, je ne sais pas s'ils le font aussi caricaturalement que je vais le dire, mais qui poussent dans la direction d'imposer la diversité sur les plateformes. C'est typiquement le cas lorsqu'on lutte contre les bulles informationnelles. Donc, c'est vrai qu'il y a des dérapages, il y a des dérives dans ce phénomène d'enfermement dans les plateformes, et notamment, et là c'est en lien à ce que vous avez dit à la fin, dans le fait qu'on n'a pas conscience. Si vous voulez, quand on parle d'aller s'informer, quand je vais acheter un journal, je m'informe d'une certaine manière et je n'apprécierais pas que mon buraliste me dise « Vous êtes en train de lire, vous achetez Luma, bah, il faut absolument que vous achetiez Valeurs Actuelles. » Vous allez voir, ça va vachement équilibrer votre point de vue. Et donc, il n'y a aucune raison que lorsqu'on aille s'informer en ligne, on nous impose une diversité également. Et donc, je suis tout à fait dans cette dynamique-là. Par contre, ce qui est vrai si on fait une distinction entre un buraliste et Facebook, c'est que quand un journal est Facebook, c'est qu'un journal il a une politique éditoriale et je sais quelle est la politique éditoriale quand j'achète le journal. Quand je vais sur Facebook, il n'y a pas de politique éditoriale. Et pour cause, parce qu'elle change en fonction du compte. Et c'est là où je rejoins votre propos, c'est que peut-être que l'on manque de capacité de maîtrise, de compréhension d'abord, mais de maîtrise aussi de ces outils. Je vais vous raconter, si j'ai un peu le temps, je ne sais pas à quel point il y a beaucoup de questions, il faut que je raccourcisse, mais j'ai une anecdote par exemple. Je me suis fait pirater mon compte Spotify un jour. Et alors, la personne qui m'a piraté, enfin, c'est pas piraté, j'ai compris ce jour-là qu'en fait, le mot de passe très faible que j'utilisais pour Spotify était sur une liste qui avait été récupérée, qui était à disposition sur le Darknet. Bon, OK. Je m'en suis rendu compte comment ? Non pas parce que la personne m'a évincé à changer le mot de passe, typiquement, auquel cas je m'en serais rendu compte très vite, mais pour la personne, ça n'aurait pas été maligne parce que j'aurais coupé ma carte de crédit et puis elle n'aurait pas pu utiliser le compte, ou alors en payant elle-même. Donc, je m'en suis rendu compte parce qu'au bout d'un moment, on me recommandait de la musique qui n'avait rien à voir avec ce que j'aimais. Je me suis dit, c'est quand même bizarre ce truc. D'abord, voilà, on me force à écouter la musique, c'est très désagréable. Et puis, pourquoi ? Et là, je commence à regarder les logs, mon historique, et je vois que je suis censé avoir écouté de la musique qui n'a rien à voir. Et puis, c'est à des moments où ce n'est pas du tout de la musique que j'écoutais, ce n'est pas du tout ça. Et je comprends en fait que quelqu'un est en train d'utiliser la plateforme. Et là, ce qui est intéressant, qui rejoint notre petite discussion là, c'est que j'ai discuté avec la plateforme. D'abord, j'ai montré que j'étais le détenteur de la carte de crédit, donc ils me redonnent la main sur la plateforme, qu'ils éliminent l'IP qui se connectait régulièrement depuis l'outre-Atlantique sur mon compte. Et puis là, très bien, donc ça s'est résolu, j'ai changé mon mot de passe, j'ai mis un vrai mot de passe, j'ai fait l'effort. Et puis tout va bien, sauf que c'était trop tard. J'étais exposé continuellement à de la musique qui ne m'intéressait pas. Donc là, je me suis mis à discuter. J'ai dit, maintenant que vous avez bien vu que je m'étais fait pirater, est-ce que vous pourriez me remettre un environnement normal ou enlever cette chose-là? Et là, et c'est là où on voit que ce n'est pas simplement une non-maîtrise de l'utilisateur, mais aussi une non-maîtrise de la plateforme. Ils n'étaient pas capables de m'extirper de cette recommandation musicale qui ne m'intéressait pas. Et je pense là que ce n'est pas de la mauvaise volonté. Et là, on rejoint des choses du type éthique by design, c'est que ça n'a pas été conçu comme étant possible. Donc, non seulement moi, je n'ai pas la main pour influencer les choix algorithmiques qui sont faits, et encore, je suis quelqu'un qui comprend un peu, par exemple, j'en suis capable de les implémenter, les algos qui font la recommandation, donc je comprends comment ils fonctionnent, mais même en les comprenant, je ne suis pas capable de les influencer quand je suis en face d'une plateforme qui utilise ces techniques-là, mais même ceux qui les manipulent, qui les mettent en place, ne sont pas capables de les influencer. Et donc ça pose un problème. Ça, pour moi, ça pose question sur notre capacité en tant qu'utilisateur d'avoir la main sur la manière dont sont traitées ces informations-là. Et c'est pour ça que je pense que, par contre, il est important de faire des études comme celle que je mène pour mettre le doigt sur la diversité. Ça me semble important de savoir à quel point ces techniques de recommandation favorisent ou pas la diversité, pour en avoir conscience, pas pour ensuite faire en sorte que tout le monde soit exposé à tous les contenus possibles. Et alors, je ne sais pas ce que j'imagine, puisque vous dites que vous rebondissez sur Dominique Cardon, que je connais très bien Dominique sur ses positions, je suis en accord avec ça. Je pense que s'il intervenait, je ne sais pas s'il est là.
Oui, il est là, mais justement.
Tu as répondu à la question, donc peut-être juste un petit commentaire et puis une autre question, du coup, je peux en profiter pour une autre question. Parce qu'évidemment, on est ennuyé par le fait que, même si tu ne le fais pas, mais l'axe que tu crées en mettant le Erfindal à 1 et diversité fait qu'on le lit comme dit idéal. D'ailleurs, tu as dit idéal à un moment, alors qu'on peut vraiment demander s'il faut appliquer un principe de justice distributive qui serait logique pour les revenus, éventuellement pour la politique, mais qui n'a pas grand sens sur les pratiques culturelles, à mon avis, et d'où la courbe que tu montres. Du coup, moi, j'ai une question sur la première partie de... Parce que je n'ai pas vu comment tu prouvais que le modèle que vous avez fait sur l'appariement sélectif, le modèle tag, oui, était un effet de contrainte algorithmique par rapport au modèle user. Non. User, parce que, oui, et qui lui aussi correspond aux données réelles. Donc, rien ne prouve dans cette partie-là. Enfin, me semble-t-il, ça ne prouve pas qu'il y a un effet de la recommandation.
Non, ce n'est pas de la reco. En fait, c'est de l'hétérogénéité des musiques représentatives sur la plateforme, associée à de la reco qu'on n'arrive pas à caractériser à ce moment-là. Mais c'est, si tu veux, dans le graphe, il y a deux niveaux. Il y a le niveau utilisateur musique et il y a le niveau musique plateforme, enfin musique et catégorie. Et dans la partie modèle de génération aléatoire, dans le tag related, donc celui dont on parle là, on ne touche pas à cette partie-là. Donc, quelque part, on conserve l'offre musicale sur la plateforme et simplement, on fait apparier les utilisateurs au titre mais pas de façon aléatoire, pas de façon uniforme, justement, en fonction de la popularité des titres qui sont présents. Donc, c'est une manière, mais je suis allé un peu vite dans l'interprétation. Donc, d'une part, c'est peut-être moi qui n'ai pas été clair, mais ce n'est pas le moment où on pense capturer la question de l'algorithmique, puisque c'est plutôt à la fin qu'on le fait, où on extirpe l'algo de recommandation. Par contre, pour nous, c'est une manière de toucher des éléments qui sont liés à des facteurs qui sont exogènes au comportement de l'utilisateur, au sens où le dernier que l'on utilise, c'est vraiment le comportement répétitif de l'utilisateur qui est mis en œuvre. Et c'est dans cette distinction-là qu'il nous semble que ça pointe le poids de l'offre ou le poids, ou plus tard, le poids de la recommandation dans cette affiliation-là.
Ok, on a une question de Gilles Bastin. Gilles.
Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Juste là, sur le point qui vient d'être évoqué, en fait, moi, il m'a semblé que le papier très super connu là, des chercheurs Facebook sur, qui minore l'effet des bulles de filtre, en fait, la question est de savoir si on prend en compte aussi les effets de recommandation sur ses amis, en fait. C'est-à-dire que l'argument des bulles de filtre, il ne porte pas nécessairement sur la recommandation sur les contenus, mais il peut porter aussi sur la recommandation indirecte par le réseau d'amis qu'on se constitue. Et on sait qu'il est lui aussi suggéré par les algorithmes des plateformes. Et du coup, je pense que c'est une grosse différence quand même par rapport à ce que vous faites sur les contenus musicaux, sur lesquels il y a a priori, en tout cas tel que vous le présentez, pas de passage par la constitution d'un réseau d'amis. Alors, je connais assez mal, mais c'est Spotify, mais ça pourrait jouer aussi un rôle si effectivement certains titres sont proposés par des amis. Et du coup, en fait, la question que je voulais poser, c'était simplement vous demander quelques informations sur. Vous avez mentionné une étude INA. Sur les données INA, c'est-à-dire en fait, dans quelle mesure est-ce qu'un modèle de type attachement préférentiel fonctionne aussi sur des données médiatiques et disons quand on cherche à mesurer la diversité de l'opinion, par exemple, et comment est-ce qu'on fait le décalque, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on mesure par exemple la popularité dans ce cas, et comment est-ce qu'on mesure aussi les tags en quelque sorte qui permettent de caractériser les registres d'opinion qui sont présentés par exemple ou choisis par les individus. Voilà, je serais assez intéressé de savoir comment vous basculez de l'écoute musicale à l'exposition au contenu audiovisuel, par exemple. C'est une question intéressante. Merci beaucoup.
Merci pour la question. J'ai choisi là de vous montrer l'écoute musicale parce qu'elle me semblait d'abord illustrative, assez intuitive, et elle montrait l'éventail de ce que l'on pouvait faire avec notre approche. Mais en réalité, je l'ai dit à un moment donné, on ne cherche pas ici à dire des choses pertinentes. Je ne suis pas un spécialiste de l'écoute musicale et de ces plateformes-là. Donc, ce qui m'intéressait, c'était d'illustrer la méthode et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, les critiques ensuite que l'on soulève, et notamment celles dont on a parlé avant, hein, Dominique parlait de l'idéal, j'ai utilisé le terme idéal, mais le terme idéal n'est pas un idéal au sens politique ou désiré, c'était idéal dans le sens de la mesure. Ce que l'on va appeler l'idéal de la diversité va être quelque chose d'uniforme, mais ce n'est pas à prendre au sens, disons, plus politique ou philosophique. Quand on passe à l'INA, on ne bascule pas, on ne cherche pas du tout à refaire les mêmes approches. D'ailleurs, il n'y a pas de notion de tag. Notre travail a été de fournir un formalisme qui se prête aux données relationnelles. Ensuite, en fonction du contexte et en fonction de l'expertise des gens qui veulent s'emparer de cette méthode, ça va prendre d'autres significations. Dans le cas de l'INA, c'est des données dans lesquelles on a les chaînes associées à des émissions. Donc, les chaînes possèdent des émissions. Les émissions sont présentées par des présentateurs, sont animées par des présentateurs. Ces présentateurs ont des invités dans leurs émissions. Les invités ont un profil. Et tout ça, c'est issu de l'INA. C'est l'INA qui fait le travail, en fait, de mesurer, de sauvegarder toutes ces informations. Et là, nous, on n'a pas fait de travail là-dessus. On a simplement collaboré avec des gens de l'INA pour tester ces approches en termes de diversité sur ces données-là. Mais il y a, par exemple, on n'a pas fait de travail sur la modélisation. On n'a pas fait de travail sur la saturation de la diversité. Ce n'est pas du tout les mêmes choses que l'on a tenté d'analyser. On a simplement regardé typiquement sur des colorations politiques des invités, quelles étaient les chaînes qui étaient équilibrées de celles qui l'étaient moins, et quand elles l'étaient moins, vers quoi ça penchait. C'est ce genre de choses-là. On a fait la même chose sur des données issues du Politoscope, qui a été une grande campagne de mesure de la sphère médiatique en ligne et sur des plateformes sociales comme Twitter, Facebook et aussi médiatique plus traditionnelle au moment de la campagne présidentielle. Et c'est pareil, on a essayé de regarder quelles étaient les communautés politiques et comment elles étaient associées à du traitement de l'information. Et on a regardé comment nos indicateurs de diversité arrivaient à dire des choses sur la représentativité de certains courants politiques ou de certains acteurs dans les courants politiques. Mais avec c'est la même infrastructure, mais avec des approches complètement différentes. Par exemple, on n'avait pas du tout des modèles d'attachement préférentiel. Donc, c'était vraiment… Je ne voulais pas dire ici que ce que je vous ai présenté comme technique concrète appliquée sur cette approche était réutilisable partout. Ce qui me semble réutilisable, c'est une fois qu'on a des graphes suffisamment riches au sens des couches, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 3 couches, et plus il y a de couches, plus on va réussir à dire des choses qui me semblent intéressantes, eh bien, on peut repenser ces techniques de marché. On peut faire des marches aléatoires sur ces graphes-là et on va dire des choses de la diversité. La manière d'interpréter la diversité va complètement dépendre de l'expertise des gens qui s'emparent de cette technique. Et là, je dois bien avouer que je suis assez peu pertinent. Finalement, c'est pas mon domaine que d'étudier les médias ou d'étudier les écoutes musicales, etc. Par contre, je le fais volontiers en collaboration. Avec l'INA, on travaille avec des gens de l'INA pour faire ça. Voilà.
Ok. Merci. Une question de Théodora Domenech.
C'est ça, vous m'entendez? Très bien. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je n'arrive pas à activer la vidéo, mais peut-être… Bon, bref. Oui, donc j'avais une question, peut-être si vous aviez des hypothèses, un peu parce que moi, je travaille plutôt dans le milieu de l'art contemporain, et donc les systèmes de recommandation marchent assez mal sur des sites comme Arty et autres qui le proposent. Et du coup… je me demandais si, comme moi je travaille sur vraiment une catégorie professionnelle, est-ce que vous aviez aussi des hypothèses sur cette catégorie professionnelle, comme voilà, les professionnels de l'art vont peut-être plus facilement essayer d'aller chercher d'autres choses auxquelles ils ne s'attendraient pas. Et donc, est-ce que dans la petite minorité des personnes qui vont chercher plus de diversité, est-ce qu'il n'y aurait pas les gens du monde de l'art, en fait, tout simplement? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est dessiné comme même à titre d'hypothèse personnelle dans cette direction?
Non, là, je serais bien démuni pour accompagner ça, pour répondre à ça. Non, j'ai pas vu des choses comme ça. Il faut bien voir que… Alors, la question que vous posez se pose à deux niveaux. Hein, c'est est-ce qu'on peut le faire sur des données qui traiteraient exclusivement de l'art, par exemple, et sur les systèmes dont vous parliez? Et puis, est-ce que je l'ai vu dans les données d'écoute musicale, typiquement? Et là, on n'arrive pas à le faire pour une bonne raison, c'est que quand on collecte de l'information, on le fait en respectant la vie privée des internautes. Donc, on n'a aucune idée de qui sont ces personnes sur ces grandes plateformes.
Ce n'est pas complété par une sorte de complément d'enquête plus qualitative?
Alors, on a commencé un petit peu à le faire. Il y a des gens qui font ça. Donc, ils font à côté des échantillons plus petits, bien sûr, mais beaucoup plus précis et construits pour comprendre qui sont derrière. On n'a pas creusé cette piste-là. Si on voulait mieux comprendre le phénomène sur ces plateformes, c'est ce qu'il faudrait continuer à faire. Mais là, je vous avoue que moi et le doctorant avec qui j'étais, les quelques collègues proches avec qui on travaille là-dessus, notre motivation n'est pas de mieux comprendre l'environnement particulier de l'écoute musicale, mais plutôt de comprendre ce que les réseaux ont à dire dans tout un tas de contextes très diversifiés. Et au contraire, on a tendance, nous, à essayer de papillonner sur des contextes différents pour s'assurer que les techniques qu'on propose ne sont pas juste pertinentes dans un contexte, mais fonctionnent dans d'autres contextes. Et c'est pour ça qu'on l'a testé sur des moments différents et qu'on ne s'attarde pas tant que ça, finalement, sur chaque cas d'application. Ce qui est critiquable, hein, puisque du coup, ça ne nous permet pas d'aller loin, d'être fin dans l'analyse de ces jeux de données-là. Mais je dirais que c'est pas tellement nos centres ni d'intérêt ni d'expertise.
D'accord, merci.
Mais vous avez raison, hein, du coup.
Oui, c'est deux approches différentes, mais c'est un complément à voir ensemble. Merci. Okay.
Il y a Daniel Handler qui lève une main jaune comme ça depuis 5 minutes. Je viens juste de la voir. Est-ce que vous avez une question peut-être?
Oui, j'aimerais reprendre un petit peu, mais rapidement, c'est un tout petit peu oblique par rapport à l'essentiel de la partie technique que j'ai trouvé très, très intéressante, très admirable. Donc, à un moment, il a été dit, Fabien a dit que ça l'embêterait beaucoup si on lui imposait de la diversité dans son écoute musicale. C'est vraiment pas aux plateformes de l'emmerder avec ça. Mais on est quelques-uns quand même à penser que ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'exposer les gens à un minimum de diversité, en quelque sorte pour leur bien, entre guillemets, ce qui ouvre évidemment toute la terrible question du paternalisme libertarien à propos des nudges. Est-ce qu'il est tout à fait hors de question ou hors de propos de nudger les gens vers un minimum de diversité, peut-être en leur demandant, puisqu'il y a une version des nudges où on dit aux gens, écoutez, c'est à vous de décider si vous voulez être nudgé. Donc, on pourrait demander aux gens, est-ce que vous souhaitez de temps en temps qu'on vous expose à une opinion politique ou une version des faits ou même un morceau musical différent et même avec des degrés de diversité? Est-ce que toutes les 20 recommandations, on peut vous en filer une qui est contraire ou qui est différente de vos choix préférentiels? Voilà, c'est ça ma question.
Donc, il y a deux questions, en fait. Il y a la question à Fabien Tarissant, qu'est-ce qu'il pense de cette approche-là? Et moi, je ne pousserai pas là-dedans. Et il y a la question de est-ce que c'est faisable? Et oui, c'est faisable, et même c'est demandé par beaucoup d'acteurs. On sent bien, hein, depuis quelque temps qu'il y a un marché, en fait, pour un traitement, enfin pour des considérations un peu plus, je vais dire éthiques pour faire simple, mais pour avoir discuté avec Quant, par exemple. Quant est très preneur de diversité pour une simple et bonne raison, c'est qu'eux, ils n'ont pas l'avantage d'être capables de distinguer dans les requêtes en fonction du profil passé de l'utilisateur. Donc, le grand exemple d'Eli Pariser qui montre que si vous tapez Jaguar sur deux ordis différents, eh ben, si l'un a été entraîné à apprécier les animaux dans la savane, il va vous montrer des Jaguars qui sont des animaux, mais si l'autre, c'est des voitures, il va vous montrer la marque de voiture. Quant ne peut pas le faire, ça, parce qu'il ne sait pas qui est derrière. Et donc, pour avoir discuté avec eux sont très friands d'outils qui vont les aider à diversifier les pages web qu'ils vont classer, justement pour essayer de ne pas manquer le véritable centre d'intérêt qui était cherché dans la requête. Et les plateformes aussi. Spotify argumente que et toutes les plateformes notamment, moi il m'a semblé voir ça dans l'argumentaire des plateformes qui sont payantes. Hein, pendant longtemps, tous les services, les grands services des plateformes étaient gratuits et l'économie se faisait à travers autre chose, typiquement la publicité ciblée. Maintenant, il y a beaucoup plus d'abonnements. Et donc, du coup, leur argumentaire, c'est qu'elles vont fournir une expérience utilisateur, hein, c'est le grand terme qui est repris, qui va vous permettre de vous enrichir. Et donc, on va vous faire découvrir des titres musicaux que vous ne connaissiez pas. Donc, oui, ils sont demandeurs et oui, on peut le faire. Là où je vous rejoindrai, c'est qu'il faut absolument qu'on ait la main là-dessus. Si je veux, il faudrait que je puisse demander à la plateforme de me faire découvrir des chants musicaux que je n'ai pas l'habitude d'écouter, mais qui sont connexes, qui devraient me plaire en fonction de ce qu'elle connaît des autres utilisateurs qui touchent un petit peu à ma sphère musicale. De même que, alors, en allant moins loin, et là je serais beaucoup plus du coup proactif, il faudrait pouvoir exposer aux utilisateurs une analyse de ce qu'ils font de la plateforme, de ce qu'ils font des outils qui leur sont proposés. Elles le font puisqu'elles font de la reco. Donc elles ont une notion du profil de leurs utilisateurs et elles ne nous permettent pas, elles ne nous exposent pas à la compréhension qu'elles ont de qui on est, selon elles, que ce soit vrai ou faux. Et ça, je ne comprends pas, que ça ne soit pas naturel, que ça n'arrive pas naturellement, qu'il n'y ait pas un endroit, certaines le font, hein, mais qu'il n'y ait pas un endroit où je puisse aller et dire comment la plateforme me voit et pourquoi est-ce qu'elle me recommande ça. Ce que vous pouvez faire, donc Spotify, clairement, je ne peux pas. Quand je dis à Spotify, enlevez-moi toute cette musique qui a été parasitée par l'IP outre-Atlantique, alors que du coup, ça me paraît, d'un point de vue informatique, c'est extrêmement simple. On sait à quel moment les IP sont connectés, on sait distinguer l'IP de la mienne. Elle devrait être capable, et en fait, elle ne peut pas parce que c'est un spaghetti tellement complexe qu'elle n'est pas capable d'aller mettre les mains pour retirer ça. Donc ça, c'est un problème de design. Et là, on touche à des questions d'éthique par design. Il faudrait que ça soit conçu au moment. On a des plateformes qui commencent à le faire, qui le font un petit peu. YouTube, vous pouvez aller, si vous allez sur la page d'accueil, vous pouvez aller décocher les vidéos qui vous sont recommandées et les chaînes qui vous sont recommandées. Mais on n'est pas encore dans pourquoi. Donc moi, ça m'est arrivé de le faire. Je me suis rendu compte sur YouTube que j'étais exposé à des vidéos et j'en avais marre. En fait, les premières fois, je trouvais ça rigolo, où ça m'intéressait un peu. Mais au bout d'un moment, stop, ça y est, j'ai fait le tour. Et je les ai décochés. Mais, donc ça, c'est déjà bien. Mais je n'ai pas compris pourquoi on s'était mis à me recommander ça. Et on devrait aller plus loin. On devrait me dire, voilà les profils, voilà les mots-clés qui sont associés à votre profil, voilà votre passé d'écoute qui amène au système de recommandation à faire ça. Et elles sont capables de le faire en vrai. Elles sont capables de le faire puisqu'elles le font, elles tirent leurs bénéfices de ça. Donc elles le font, elles savent le faire. Si vous êtes un annonceur et que vous dites « je veux toucher une population qui s'intéresse à ça, ça, ça », elles sont capables de vous trouver. Donc, pourquoi est-ce qu'elles ne nous expliquent pas ça? Et donc là, je rejoindrai ça. Après, de là à pousser la diversité avec des nudges, je ne sais pas, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas non plus complètement opposé, mais à mon avis, il y a une étape intermédiaire avant sur laquelle je suis plus motivé.
Ok, merci. Merci beaucoup.
Est-ce que Valérie Benabou, oui, vous avez une question?
Il a été partiellement répondu à ma question juste à l'instant, parce que je voulais rebondir sur l'anecdote du compte Spotify piraté, et justement de savoir pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas en mesure de restaurer le compte. Ça, c'est la première. Bon, vous avez partiellement répondu, en fait, ils ne savent pas, mais... C'est étonnant qu'ils ne sachent pas. Ce qui m'inquiète aussi un petit peu là-dedans, c'est comment est-ce que ça se fait qu'il n'y ait pas une fonction random, en fait, quelque chose qui serait une espèce de choix par défaut auquel on peut se raccrocher si jamais précisément il y a une dérive. C'est-à-dire que quelle était la proposition? C'était de garder le compte tel quel avec ces biais de recommandations, ou est-ce qu'il y avait moyen de faire un reset complet et il n'y avait pas moyen de revenir sur des recommandations? Et est-ce que vous avez, vous, senti une vraie perte de qualité dans le service?
Et c'est exactement ça qui s'est passé. Ils m'ont dit, on ne peut pas enlever ça, par contre, on peut vous faire repartir à zéro. Donc, j'ai dit ça, en fait. Parce que je pense que c'est à force de ne pas écouter ou de disliker les musiques que je n'aimais pas, le système aurait fini par apprendre. Mais je trouvais ça pénible, en fait, à faire. Puis des fois, j'écoute des playlists, je n'ai pas envie d'aller cliquer. En fait, j'écoute les playlists. Ce qui pose aussi la question de... Bref, pardon. Donc, c'est le choix que m'a offert la plateforme. Je pense réellement qu'elles sont capables... Je pense qu'elles auraient été capables d'effacer l'historique. C'est-à-dire de récupérer, d'effacer de mon historique de mon compte celle qui provenait d'une IP qui n'était pas la bonne. Ça, je pense qu'ils sont capables de le faire, mais ils ne sont pas capables de réentraîner le modèle. Le modèle, il se fait en live après coup. Et je pense que ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables, c'est que c'était trop d'efforts, trop coûteux pour un utilisateur. Et ils n'ont pas fait la démarche d'eux. Peut-être aussi qu'en face de moi, quand je discutais de ça, ce n'étaient pas les techniciens de Spotify, c'est les services juridiques. Donc, je ne sais pas à quel point. Vous voyez, ce n'est pas très clair, en fait, dans mon expérience. C'est une petite anecdote, mais. Peut-être que si j'avais parlé aux vrais techniciens, si je les connaissais, ils m'auraient dit « Ah bah ouais, il suffirait que je fasse ça, je vais te le faire pour toi. » Mais en tout cas, ce que je retiens de cette anecdote, c'est que dans cette réflexion sur la prise en main de ces plateformes et notre capacité à être acteur le plus possible sur ces plateformes, sur cet aspect-là, ce n'est pas possible aujourd'hui. Alors par contre, vous avez le droit, moi, sur YouTube par exemple, j'ai demandé à YouTube de ne pas enregistrer l'historique en fait. Donc moi, continuellement, ils me proposent les vidéos les plus populaires en fonction de la vidéo que je viens de regarder. Et pas en fonction de mon passé et de mon historique, puisqu'il ne l'a pas, justement. Donc, oui, il y a des mécanismes pour faire ça, mais je trouve qu'ils sont encore trop sommaires, en fait. Justement, le fait qu'on soit en train de me dire soit vous continuez comme ça, soit vous repartez à zéro, c'est un peu rude comme discussion.
Il y a une autre anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, d'un écrivain auquel on avait recommandé de lire ses propres bouquins, mais qui montre aussi peut-être la rapidité quand même de l'enfermement de la recommandation. Je sais que j'utilisais Last.fm et dans un premier temps, ça m'a amené à écouter des gens que je ne connaissais pas, mais assez rapidement, finalement, j'étais en boucle sur toujours les mêmes recommandations et je ne sortais plus du tout de ce panier. Et ça, à titre individuel, ça corrobore les conclusions que vous dites. C'est-à-dire, finalement, quand on élargit la diversité, on ne sort plus de cette masse de diversité, de primo-diversité. Mais ma question sur la nécessité d'introduire peut-être de façon rigide, mais c'est parce que je suis juriste, des obligations à la charge des plateformes, soit de transparence sur les raisons qui ont présidé au choix des recommandations, soit de créer une espèce de logique alternative en disant si on n'avait pas eu ces données-là, voilà ce que vous seriez en mesure de voir comme le bon pater familias, une espèce de critère de base pour tout le monde, qui voilà, qui nous réconcilie avec le film de 20h30 sur la chaîne unique, quoi. J'exagère un peu, mais...
Les plateformes, je pense, sont très... Parce que ça, c'est un des problèmes qu'on a d'ailleurs dans les systèmes d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle le cold start. Qu'est-ce que vous recommandez aux gens dont vous n'avez pas le passé? Qu'est-ce que vous recommandez à des gens qui viennent d'arriver sur la plateforme? C'est un problème connu, ça s'appelle le cold start. Et on a tout un champ de recherche en IA et en machine learning pour essayer de pallier à ce problème avec des techniques diverses. Et c'est un vrai problème. Et le vrai problème pour les plateformes, alors celles qui ne sont pas sur abonnement, donc prenons YouTube par exemple, c'est que ce qu'elles mesurent, c'est que du coup, elles ne sont pas bonnes dans la détection du profil au début. Donc, elles recommandent n'importe quoi. Et ça veut dire pour elles qu'elles recommandent n'importe quoi comme publicité ciblée. Et donc, que les gens ne cliquent pas et donc que ce n'est pas très efficace en termes de revenus. Donc, elles sont, je pense, en partie, celles qui vivent sur ce genre d'économie, réticentes à ça parce qu'elles ont déjà mesuré que ce n'était pas efficace. Et pour elles, je pense sincèrement qu'elles font une adéquation complète entre la non-efficacité économique avec la non-efficacité de recommandation. Si elles perdent de l'argent sur les panneaux publicitaires, c'est parce qu'elles n'ont pas bien identifié qui il était, donc elles ne sont pas capables de faire de la bonne recommandation. Et pour elles, elles associent la satisfaction de l'utilisateur avec le fait que quand elles proposent de l'espace publicitaire, ça génère du revenu. Et donc ça, c'est inextricable, quelque part. Et pour elles, elles ne vont pas avoir très envie de régulièrement remettre à zéro parce que ça ne marche pas concrètement d'un point de vue des revenus. Alors, elles masquent le discours en disant, du coup, notre mesure de la satisfaction de l'utilisateur n'est pas bon. En fait, ce qu'elles mesurent, c'est le clic ou le temps passé sur les panneaux publicitaires. Mais on comprend bien pourquoi elles disent ça, du coup. Par contre, je pense qu'il faut réguler. Je pense qu'il faut de la régulation. Je vois qu'on va réguler le temps de parole dans quelques minutes.
Vas-y.
Il y a des perspectives quand même. On a bien vu c'est une sphère complètement différente, mais avec la loi Avia, on voit bien que ce n'est pas évident d'amener sur le terrain juridique comment imposer des contraintes aux plateformes. Mais il y a d'autres ouvertures quand même qui se font. Il faudrait regarder ce qui se passe dans les mois à venir avec les différents projets de loi et les différents amendements. Ce n'est pas dit qu'on n'arrive pas à commencer à imposer aux plateformes justement cette exposition à comment la plateforme perçoit les utilisateurs et des manières d'y remédier, notamment à travers la question du droit à l'information. On devrait être capable de s'informer sur la manière dont à la fois nos données sont traitées, mais comment elles sont analysées et perçues par les plateformes qui ensuite les utilisent pour nous recommander des contenus.
Alors, il est déjà 15h30, le temps passe très vite en ta compagnie, Fabien, mais je vais juste me permettre une dernière question. Moi, j'ai le droit, bien qu'on ait dépassé. On a évoqué au début de tes activités de médiation scientifique sur ces thématiques-là. Est-ce que tu aurais des choses à nous dire là-dessus, à partager là-dessus sur comment faire de la bonne vulgarisation?
Justement, c'est génial que tu dises ça parce que on est en train de parler ici donc des défauts, des problématiques, des tensions entre utilisateurs plateformes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On vient de parler de la régulation, donc on est dans la sphère du droit. Je pense que le législatif est très important pour être acteur là-dessus, mais je crois qu'il y a encore quelque chose de plus fondamental que le législatif, c'est l'éducation. Un des problèmes aujourd'hui, c'est que les gens qui utilisent ces plateformes ne comprennent pas comment elles fonctionnent et sont donc assez démunis. Ce système-là. Si on avait une meilleure conscience, une meilleure compréhension de l'informatique, du numérique, des algorithmes, alors on aurait peut-être aussi une meilleure capacité à la fois à les utiliser, mais à peser aussi sur les choix qui sont faits, notamment potentiellement sur les choix juridiques. Alors moi, ce que je fais beaucoup en termes de médiation, donc c'est soit écrire, effectivement, soit aller dans des classes. Et alors, une expérience que j'aime bien faire, c'est la première expérience que je vous ai racontée sur le Search Manipulation Engine Effect, que je vais faire dans quelques mois dans une classe de troisième au collège de Kremlin-Bicêtre. Ils ne le savent pas encore, mais je vais leur proposer de faire une... Je vais essayer de reproduire un petit peu cette expérience. Et ça a déjà été fait par une collègue il n'y a pas longtemps en classe de seconde. Vous dites aux élèves qu'il va falloir qu'ils choisissent à se poser une question sur des fourmis. Alors, il faut choisir quelque chose quand même d'assez neutre parce que vous êtes en train de montrer qu'il y a des influences. Donc, vous allez influencer des collégiens, donc il faut un peu choisir des sujets un petit peu soft. Donc, par exemple, les fourmis. Est-ce que les fourmis, c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut les garder? Il faut les préserver? Ou est-ce qu'il faut un petit peu s'en débarrasser? Et en fait, vous avez des études qui, justement, argumentent qu'il faut les garder pour l'écosystème, etc. Et puis, des études qui montrent que les fourmis, c'est des dangers aussi, que à certains moments, il faut s'en débarrasser. Et vous faites ça dans la classe. Donc, vous dites, vous avez 20 minutes pour aller sur le moteur de recherche que je vous propose. rentrer votre identifiant et en fonction du module 3 de leur identifiant, ils tombent sur un moteur de recherche qui est pro-fourmi, un moteur de recherche qui est contre-fourmi et un moteur de recherche qui est entre les deux. Et ensuite, vous leur dites, bah voilà, maintenant, vote, tu gardes les fourmis, tu les extermines. Et on retrouve les mêmes phénomènes que dans l'étude d'Epstein. Un petit peu plus faible, c'est des petits corpus, mais on voit que ceux qui sont exposés à, en premier, des pages web qui montrent les dangers des fourmis, et ben, ils ont une tendance à ne pas vouloir les conserver. Et donc ça permet de déconstruire ensuite, de leur dire, mais en fait, ce qu'on vient de faire là, qu'on a manipulé, là, vous étiez, c'était un moteur de recherche complètement manipulateur, mais en fait, vous voyez bien que ça a une influence sur votre choix. Alors qu'on leur propose, en fait, ils n'ont que 10 articles. Donc, s'ils prennent le temps de lire les articles, ils ont la même chose. Et donc, on voit bien qu'ils cliquent en fait sur les premiers et que cet ordre a une influence directe. Et ça, ils en font l'expérience sur ce moment-là. Ce que je fais aussi à ce moment-là, c'est qu'on leur explique comment marche un PageRank, par exemple. Comment les plateformes font pour quantifier l'importance d'une page. Et on leur apprend à le faire à la main. Donc, on leur donne des petits graphes et on les fait calculer les PageRank des pages. Et ça permet de déconstruire aussi ce mythe de Google nous présente ou Bing nous présente un classement et c'est le classement. En fait, en montrant comment ce classement s'opère, en montrant qu'ils sont capables de le calculer à la main sur un petit graphe, eh ben, ça déconstruit aussi cette aura d'objectivité et de vision unique sur ce qu'est la bonne page web ou la bonne information à lire. Voilà.
Super. Merci beaucoup, Fabien. Merci à tous ceux qui étaient là, écoutaient, posaient des questions. C'était très riche et stimulant. Ce que je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez encore quelques minutes, c'est d'aller se téléporter sur une autre plateforme. Je viens de mettre le lien dans le chat. C'est Wonder, peut-être que vous connaissez. C'est une façon de faire de simuler une pause café. Voilà, bah, donc... moi j'y serai, donc je vous y retrouve, et puis sinon pour les autres, ben, encore merci et prochain rendez-vous du séminaire 6, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore la date, mais suivez les infos sur le site web du 6. Merci beaucoup à vous et puis à tout de suite sur Wonder pour ceux qui viennent.
Merci, au revoir.